Good Evening Business, l'invité.
18h18, c'est donc Denis Ferrand, le directeur général de l'Institut Rexecode, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Denis, bienvenue pour décortiquer, analyser tous ces chiffres qui sont tombés en batterie du côté de l'INSEE vendredi. Aujourd'hui c'est Eurostat. Alors Eurostat qui semble nous dire que la zone euro va droit dans le mur, droit dans la récession, tout droit en klaxonnant. Croissance dans la zone euro 0,2% au troisième trimestre, inflation qui accélère 10,7% fin octobre. Est-ce que la zone euro file vers la récession et est-ce que c'est... si grave que ça, finalement, Denis, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important, finalement?
Oui, déjà, c'est moins Eurostat qui le dit que les enquêtes, que les chefs d'entreprise eux-mêmes. Et en fait, c'est plus ça qu'il faut regarder que les chiffres qui sont en réalité des chiffres qui sont dans le rétroviseur. Et en fait, les enquêtes de conjoncture, elles disent bien depuis quelques temps que le climat des affaires a changé, que c'est assez hétérogène quand même entre secteurs, que c'est aussi assez hétérogène entre pays. Autant on voit un climat des affaires qui est quand même très mauvais dans le secteur industriel et en particulier en Allemagne et en particulier dans les secteurs très énergivores, autant dans plusieurs secteurs, on le voit dans les services en France, on a quand même encore de la résistance qui se fait. Donc c'est un peu de l'hétérogénéité, mais les secteurs qui sont en général en avance sur le cycle, tels que les secteurs industriels, eh bien ils nous disent que oui, ça va être compliqué dans les mois prochains.
Donc le scénario des mois prochains pour vous, c'est quoi? C'est une récession? Après, le fait que qu'on soit récession n'est pas forcément la chose la plus importante à regarder. Il y a récession et récession après tout, Denis.
Oui,
mais c'est quoi finalement pour vous
En fait, on est sur un...
qu'est-ce qu'on regarde dans les prochains
mois? Sur un moment qui est très atypique parce que pour un conjoncturiste, il a affaire à quelque chose de tout à fait nouveau, qui est le fait que l'accès à la quantité n'est pas garanti. Et donc, on est sur une conjoncture qui a une très grande originalité. En général, on regarde les évolutions de prix, on sait ce que cela va faire en termes de logique de comportement du côté des ménages. Les hausses de taux, on voit ce que cela va faire en termes de logique d'investissement de la part des entreprises, notamment. Là, on est sur une question qui est beaucoup plus fondamentale, qui est celle de l'accès même à la principale des ressources, à la méta-ressource, en fait, qui est l'énergie. Ouais. Et donc, ça donne une configuration qui est très originale à la conjoncture, probablement un petit peu plus difficile à décrypter.
Le pic d'inflation pour vous, il est pour quand aujourd'hui? Ça reste la grande question, évidemment, peut-être sans réponse, vous allez me dire, mais finalement,
On ne parle que de la zone euro.
On ne parle que de la zone euro.
D'accord, parce qu'aux États-Unis, il est derrière nous, a priori.
Oui.
Mais ça, je pense que c'est relativement entériné. Pour la zone euro, on n'y est pas encore. Mais parce qu'on est sur une configuration qui, là encore, est très originale et qui demande à être comparée, par exemple, avec des précédents chocs énergétiques qui concernaient un produit dont le prix est mondial. C'était le pétrole. Là, on est sur une configuration qui est très particulière, où le choc sur le prix, de prix qui s'opère se fait sur un produit dont le prix est régional. Et donc, la configuration qu'il y a en zone euro est très déterminée par ce qui se passe sur l'énergie, par le gaz, vous l'avez compris, par l'électricité, par effet de ricochet. Et c'est ça qui, en fait, crée tout à fait l'originalité de la situation européenne. Sachant qu'on n'a pas encore atteint le pic du côté des produits alimentaires, il y a toujours un petit effet de retard qui se fait sur les prix des produits alimentaires.
Marqué sur les produits alimentaires, évidemment.
Oui, tout à fait. Mais on voit bien que c'est là que se fait l'accélération, sachant qu'il faut bien regarder que sur la période récente, il y a eu probablement un pic qui a été atteint quant à la dérive des prix de production dans l'industrie, mais également dans le secteur agricole, avec la baisse des cours des matières premières que l'on observe.
Question en ce qui concerne la France. Alors, avant de parler de la France, mais ça va aussi nous amener à parler de la France, il y a le cas de l'Allemagne. Beaucoup de polémiques autour du plan à 200 milliards annoncé par les Allemands pour essayer d'aplanir le choc de l'inflation, notamment sur le plan énergétique. Est-ce que vous dites, comme beaucoup disent, beaucoup de critiques en Allemagne, autour de l'Allemagne, mais finalement, il faut préserver l'Allemagne dans la tourmente actuelle. Voilà. La meilleure chose que nous ayons à faire, c'est de préserver l'Allemagne en zone euro, finalement.
Préserver l'Allemagne, ou en tout cas, c'est pas tant préserver l'Allemagne que de construire de véritables réponses européennes. En fait, la grande difficulté, c'est que il en va de cette période du Covid, un peu comme de cette période, de la crise énergétique, un peu comme on l'a fait au moment du Covid.
Ouais.
Au début, on a eu des réponses absolument non coordonnées, puis au bout d'un moment, la coordination a joué. Là, on est encore dans la phase où chacun y va de son plan. C'est les Français qui avaient commencé en premier. Nous étions les premiers à mettre les caps sur les prix du gaz, de l'électricité et de l'essence. Et en fait, on manque plus que d'arrimer l'Allemagne, parce que la question européenne de l'Allemagne ne se pose même pas, mais c'est véritablement d'arriver à faire en sorte qu'on ait une réponse coordonnée. Je pense qu'il y a quand même des progrès qui sont en train de se faire. C'est lent, évidemment, mais c'est comme toujours avec l'Europe. C'est lent, ça se fait. Ouais. Mais petit à petit, on va arriver à installer des circonstances plus favorables.
La France, on sera peut-être pas en récession en 2023. Vous y croyez, vous, à la récession pour 2023? Les prévisions de l'INSEE et la Banque de France semblent dire qu'il y a des chances qu'on y échappe.
Tout va dépendre évidemment de ce que l'on appelle récession, c'est-à-dire que si, alors vous allez dire qu'on fait une réponse aux Normands en disant qu'on va être à zéro l'année prochaine, et c'est la prévision que l'on fait avec ces codes actuellement, on est à zéro de croissance pour l'année prochaine.
C'est une croissance molle, c'est une croissance dans laquelle le chômage ne baisse plus.
Oui, c'est quand même une période, il y a quand même une période où l'activité se contracte. Donc il y a quand même plusieurs mois, plusieurs trimestres consécutifs pendant lesquels l'activité va se contracter. Mais l'enjeu, et vous l'avez souligné, c'est bien ce qui va se passer du côté de l'emploi. On a un emploi qui pour l'instant est en surplomb. On a presque une situation à l'américaine,
c'est vrai,
où en fait il y a plus d'emplois qu'il n'y a de PIB. Regardez les États-Unis, on disait que les États-Unis sont en récession, mais comment peut-on appeler situation récessive la situation d'une économie qui connaît toujours une progression à hauteur de 400 000 emplois par an, par mois, pardon, depuis le début de l'année.
Sauf qu'en France, le chômage n'augmente pas, mais il ne baisse plus. Vous avez vu les chiffres que nous a sortis la DARES l'autre jour.
Tout à fait.
Ça ne baisse plus désormais.
Oui, voilà, mais regardez en même temps les chiffres de nombre d'embauches en septembre.
Oui,
on était à 885 000 embauches. On n'a jamais vu un nombre aussi important. Sans doute parce qu'il y a aussi un peu d'effet de retard, parce qu'il y a de la rétention de l'emploi dans les entreprises, mais aussi parce qu'on n'arrive pas à fournir les postes.
Puisqu'on parle d'emploi, est-ce que vous êtes inquiet de l'accélération du nombre de défaillances? On a pas mal d'acteurs qui nous disent bah voilà, on s'attendait à revenir sur les niveaux d'avant Covid en termes de défaillances d'entreprises, mais pas aussi rapidement. Certains disent qu'on devait faire en 2 ans. Le niveau qu'on devait retrouver en 2 ans, on va le retrouver en une seule année finalement. Est-ce que vous êtes inquiet de cette accélération depuis quelques mois pour vous? Elle est logique, mais...
Oui, elle est logique. Et c'est vrai qu'elle est assez cohérente avec ce que l'on voit sur les opinions sur les trésoreries des entreprises.
Oui.
Où là, on voit que ce soit dans l'industrie ou dans les services, dont je soulignais plutôt la bonne tenue jusqu'à présent, mais on voit aussi dans les services que les opinions sur les trésoreries commencent à se dégrader. Ça vaut pour les grandes, ça vaut pour les petites entreprises. Donc là, c'est quand même un signe avant-coureur. Ce qui me rassure plutôt sur les défaillances, parce que oui, bien entendu, il va y avoir une remontée des défaillances, parce que on est sorti de la fin des périodes de délai pour le remboursement des PGE, il y a la remontée des coûts, il y aura une augmentation des salaires aussi qui va intervenir. Donc oui, ça va mettre les entreprises en difficulté. Ce qui me rassure, c'est que on anticipe peut-être un petit peu mieux que d'habitude cette remontée. Quand je vois le nombre de procédures de sauvegarde qui remonte très fort, qui dépasse déjà son niveau de 2019. Mais ce n'est pas le cas pour les liquidations. Ce n'est pas le cas pour le nombre d'entreprises en redressement.
Oui.
Et on sait que plus on prend tôt les situations de difficulté des entreprises au travers des procédures de sauvegarde, plus grande est la probabilité qu'on les maintienne en vie.
Qu'est-ce qu'elle doit faire dans la tourmente actuelle, la France? Est-ce qu'elle doit continuer à réformer, Denis, finalement? Est-ce qu'elle doit continuer à protéger ou est-ce qu'elle doit un peu plus investir et préparer l'avenir dans la tourmente actuelle, finalement?
L'enjeu est quand même vraiment sur l'investissement. Et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup surpris dans le chiffre de vendredi sur la croissance, c'était le comportement de l'investissement des entreprises.
Qui reste bon.
Qui reste très bon. Et la question, mais pour l'instant, on n'a pas d'ores et déjà les éléments qui nous permettent de rendre tangible cette hypothèse, c'est qu'il y a peut-être une accélération, une anticipation des dépenses d'investissement par les entreprises qui se sont dit, mais là, on a devant nous une crise, on a des messages qui ont été passés, attendez, l'hiver compliqué, c'est pas l'hiver 2022-2023, c'est l'hiver 2023-2024.
Exactement.
Donc les entreprises se mettent probablement en capacité d'anticiper des dépenses, notamment en matière d'économie d'énergie, qu'elles avaient programmées, mais qu'elles ne déclenchaient pas.
D'accélérer sur la transition énergétique, c'est ça que ça veut dire, dans les boîtes finalement.
Écoutez, en tout cas, c'est une hypothèse que je verse, mais quand je regarde ce qui se passe dans beaucoup d'entreprises, quand on regarde ce qui se passe sur le type d'actifs qui a été porté sur la période récente en termes de dynamique de l'investissement, quand on regarde aussi le comportement de stockage des entreprises, eh bien, ça laisse à penser qu'il y a bien ce phénomène qui se joue.
Dernière question, Denis, on a moins d'une minute. Je lis les prévisions de la Banque de France qui nous dit 2022, résilience, 2023, ralentissement, 2024, rebond. Qu'est-ce qui rend la Banque de France si optimiste? Qu'est-ce qui nous dit que les choses, d'un seul coup, vont recommencer à s'éclaircir à horizon de 6-9 mois, finalement, pour vous? Il y a une raison d'être aussi optimiste que ça, finalement?
Alors, je ne fais pas la prévision de la Banque de France, mais je pense que ce qui joue, c'est le fait qu'il y a un message sur l'inflation ne dépasse pas 2% en 2024. C'est probablement aller un petit peu vite en besogne, parce qu'on a quand même un phénomène qui a été désormais suffisamment long, suffisamment profond, pour qu'il puisse s'installer un peu plus dans la durée. Et donc, les situations de taux, les capacités aussi de dépenser des agents pour être contraints pendant un moment, parce que n'oublions pas quand même qu'on a, et vous avez vu les chiffres de l'inflation ce matin, en comparaison de la zone euro, on a l'inflation la 10,7, la France est à 7,1. Cela tient à notre mix énergétique, cela tient aussi à notre grand interventionnisme que l'on a fait, et qu'il va bien falloir un moment ressortir, et on aura un moment la vérité des prix qui interviendra.
Mais rien ne dit à ce stade que nous ne sommes partis que pour 6-9 mois difficiles. Ça peut durer, Denis. J'ai l'impression qu'on entend un peu trop de scénarios optimistes en ce sens.
Je pense qu'il faut être on est vraiment dans le moment où il faut rester très prudent sur les prévisions, véritablement sur ces anticipations que l'on peut formuler, parce qu'on est dans une période qui est totalement inédite.
Absolument.
Regardez la vitesse à laquelle on doit faire les changements structurels et l'adaptation à une situation conjoncturelle qui, au total, était assez peu anticipée. Il y a un an, ans, personne ne voyait l'inflation aussi haute.
Continuons à serrer les dents, c'est le message. Merci beaucoup Denis, merci de passer nous voir ce soir. Denis Ferrand, le directeur général de l'Institut Rexecode avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup Denis, à très vite. Avec plaisir. 18h28, on marque une petite pause, le grand débat dans un instant. On va reparler conjoncture, on va reparler de la mauvaise nouvelle encore aujourd'hui pour EDF, et puis on va revenir un petit peu sur l'onde de choc, sur les GAFA en bourse. N'était-ce qu'une parenthèse ou alors est-ce qu'on est sur la fin d'un âge d'or ? Ben on voit tout ça jusqu'à 19h sur BFM. À tout de suite.